bienvenue. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements couverts par les journalistes et les correspondants de RFI.
Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Et pour commenter cette semaine d'actualité qui va nous emmener d'Amman à Téhéran en passant par Bamako, nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous publiez aux éditions La Découverte, l'Afrique, nouvelle frontière du djihad. Point d'interrogation. C'est un livre dense, documenté, riche de votre expérience du terrain et assez courageux parce que vous allez à contre-courant de ce qui se dit ou s'écrit souvent sur les groupes djihadistes en Afrique. Vous épinglez les amalgames faciles et vous démontez la menace terroriste globale inspirée de la théorie des dominos. Pour vous, le Sahélistan, ça n'existe pas ?
Le Sahélistan renvoie à l'image de l'AFPAC, l'Afghanistan-Pakistan, ou de ce qui s'est passé dans les années 90, où il y avait les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul, qui ont permis à Oussama Ben Laden de s'installer, celui-ci allait faire des attentats aux États-Unis. Ce genre de scénario n'existe absolument pas en Afrique subsaharienne. On n'a pas des groupes djihadistes qui sont capables de s'emparer du pouvoir, de le tenir. C'est-à-dire que tenir du territoire, c'est pas la même chose que de contrôler et de gérer une population. Territoire à partir duquel on aurait vu des attentats se monter sur le continent européen ou américain. Non, ça n'existe pas. Donc l'expression Sahélistan qui renvoie à un certain modèle qu'on a vu en Afghanistan me semble extrêmement trompeuse et même dangereuse. J'irai plus loin. Parce qu'il y a des gens qui écrivent sur l'Afrikanistan, sur le Sahélistan, et qui effectivement renvoient à l'idée que finalement il faudrait une réponse militaire parce que la menace serait globale et qu'elle nous toucherait nous directement en Europe. Donc oui, à Paris on a eu des attentats commandités et soutenus par l'État islamique en Irak et en Syrie. Mais non, je suis désolé, on n'a pas eu d'attentats soutenus et fomentés par des groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, il faut quand même le rappeler.
Donc il n'y a pas de lien entre les djihadistes du sud du Sahara et ceux du Proche-Orient, aucun contact entre Daesh en Irak et en Syrie et Boko Haram au Nigeria par exemple ?
Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait aucun contact, mais il y a eu quelques contacts individuels. Il y a une guerre de communication qui vise à rendre ces groupes plus importants qu'ils ne le sont réellement. Donc quand un groupe engoncé dans un terroir local comme Boko Haram annonce son allégeance pour une faction de ce groupe à Daesh, à l'État islamique, ça lui donne tout de suite une ampleur internationale qu'il n'a pas réellement. Donc on est là dans le domaine de la guerre de communication. Donc il y a des contacts en termes de médias djihadistes, oui, quelques contacts individuels, mais pas des mouvements de foule. C'est-à-dire vous n'avez pas des tanks qui déboulent de Raqqa ou de Mossoul pour aller sur Maïdegori au Nigérien ou sur Tombouctou dans le nord du Mali. Peu d'échanges de combattants, mais vraiment c'est tout à fait négligeable. Quant au financement, excusez-moi, tout ce qu'on a pu prouver, c'était quand même assez dérisoire comme type de montant.
Et vous prenez aussi l'exemple des Chebabs somaliens. Vous expliquez que tout en étant affiliés à Al-Qaïda depuis 2012, leur discours est nationaliste, voire xénophobe, et très éloigné en tout cas des visées transnationales qu'avait Ben Laden.
Alors, des trois foyers djihadistes qu'on a aujourd'hui en Afrique subsaharienne, donc disons Acmi dans le nord du Mali, Boko Haram autour du lac Tchad, et les Chebabs dans la Corne de l'Afrique, c'est certainement ceux qui sont les plus, disons, globaux, dans le sens où ils s'appuient aussi sur une diaspora somalienne outre-mer, ce qui n'est pas le cas d'Acmi ou de Boko Haram. En revanche, effectivement, on voit à l'intérieur des Chebabs, comme dans les autres groupes, des tensions entre généralement une toute petite minorité qui aurait un agenda internationaliste et puis l'essentiel du groupe qui se bat pour des enjeux de proximité. Et Chebabs n'y échappe pas, c'est-à-dire qu'en fait l'essentiel des combattants se battent pour... alors effectivement, ils se sont beaucoup légitimés pour bouter l'envahisseur éthiopien ou kényan aujourd'hui en dehors du territoire somalien, ce qui leur donne un peu aussi une dimension nationaliste presque, vous voyez, et xénophobe, effectivement.
Alors, autre différence entre le djihadisme proche-oriental, entre guillemets, et le djihadisme en Afrique, vous dites que ce djihadisme africain n'a aucun pouvoir d'attraction sur les jeunes des banlieues françaises.
Oui, c'est un paradoxe d'ailleurs, puisqu'il y a à peu près un quart de la communauté des croyants musulmans qui est constituée d'arabes, mais néanmoins, voilà, cette religion est née sur la péninsule arabique, donc ce qui est vraiment attractif en termes de modèles révolutionnaires, en termes même de terres où combattre pour le djihad, pour des jeunes qui viendraient d'Europe ou d'Amérique du Nord, c'est effectivement dans le monde arabe, pas dans les mondes noirs au sud du Sahara. Donc il y a plein de raisons qui expliquent aussi que on n'ait pas vu des djihadistes débouler des banlieues bruxelloises ou parisiennes ou londoniennes autour de du lac Tchad ou même dans le nord du Mali, parce qu'il y a aussi des effets logistiques, si vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué de se rendre à Maïdougouri ou à Tombouctou que de prendre un avion pour Istanbul, puis un bus qui vous emmène direct sur la frontière de la Syrie. Ça, sur le plan logistique, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. En revanche, allez, venez nous voir à Maïdougouri, allez à Tombouctou, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a aussi, vous voyez, ce problème logistique d'infrastructure. On est dans des situations où les États sont très faibles, où il y a peu d'infrastructures de transport, donc c'est pas du tout en termes d'accessibilité ce qu'on peut avoir sur la Syrie ou l'Irak.
Alors comment vous expliquez que cette théorie dite de l'arc de crise, hein, qui irait des pays arabes sur la mer Rouge jusqu'au Sahara occidental, connaisse un tel succès? Parce que ça arrange tout le monde?
Alors, je pense qu'il y a effectivement une narration de la menace terroriste qui serait prétendument globale, qui sert un peu tout le monde. Alors, ça sert d'abord les djihadistes, parce que du coup, ils se rendent plus importants qu'ils ne le sont réellement. Et le terrorisme, il faut le rappeler, ça sert à faire peur aussi. Donc, ça les intéresse d'avoir ce genre de discours. Ça intéresse aussi des régimes autoritaires et corrompus en Afrique, parce que ça leur permet de faire de la lutte antiterroriste une sorte de rente, un peu comme du temps de la guerre froide, vous voyez. Ah bah, si vous m'aidez pas, je vais basculer dans le camp des communistes. Bon, bah, on a un petit peu ce genre de, pas forcément de chantage, mais en tout cas de fabrication ou de gonflement d'une menace qui permet de renouer, de se replacer sur la scène internationale, sur le plan diplomatique, d'avoir des soutiens financiers, militaires, économiques, de se réhabiliter lorsqu'on était considéré comme un régime extrêmement autoritaire, peu démocratique. Je pense à des gens comme Paul Biya au Cameroun, au pouvoir depuis 1982, Idriss Déby au pouvoir depuis 1990. Pour ces gens-là, la lutte antiterroriste est une formidable rente. Et quant aux pays occidentaux, bah, n'oublions pas que quand la France est intervenue au Mali début 2013, on était en train de négocier le livret blanc de la défense qui avait pour finalement, pour philosophie essentielle, d'essayer de réduire le coût du budget des armées et éventuellement de supprimer les bases militaires permanentes en Afrique subsaharienne. Écoutez, grâce à la lutte antiterroriste, aujourd'hui, il n'est plus question de supprimer ces bases. Donc on voit bien qu'il y a aussi des intérêts, y compris dans les milieux sécuritaires, à gonfler cette menace.
Et c'est une aubaine pour les services de sécurité privés.
Bien sûr, il y a derrière tout un formidable marché de la consultance, du soutien logistique, de la sécurité privée, autour de cette lutte contre un terrorisme qui est présenté comme global et menaçant directement les intérêts en Europe ou en Amérique du Nord.
Alors selon vous, la lecture exclusivement religieuse du djihadisme en Afrique est une erreur parce qu'en fait les mobiles qui poussent les jeunes notamment à s'enrôler dans la lutte armée ne sont pas forcément religieux. Ils sont très très divers.
Ils sont très divers. On a des études qui montrent qu'effectivement le religieux n'est pas forcément le facteur fondamental. Ça ne veut pas dire que le religieux ne joue aucun rôle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent justement l'analyse qu'on en fait par les décideurs politiques en Europe, par les médias aussi, surdétermine le rôle du religieux, ce qui nous renvoie aussi à cette question d'un djihad qui serait prétendument global. C'est-à-dire que là, on a effectivement l'idée, et c'est une narration très courante en Afrique, qu'il y aurait un islam africain traditionnel plutôt sympa, qui serait pas violent, alors qu'en fait, il constituait l'ossature idéologique des grands djihads soufis du 19e siècle, face à un islam qui serait arabe, importé en Afrique, qui lui serait wahhabite, et qui serait très radical, et qui constituerait la matrice idéologique des soulèvements d'aujourd'hui. En réalité, on se rend compte qu'effectivement, vous pouvez avoir des conflits locaux dans des pays sahéliens à dominante musulmane qui vont se saisir de l'islam pour justifier leur rébellion. Ce qui n'est pas exactement la même chose, vous voyez. C'est pas forcément l'islam ou la radicalisation, comme on dit, de l'islam qui serait à l'origine de ces conflits. Mais en revanche, effectivement, l'islam ou, disons, une certaine interprétation du Coran et de la charia va donner du sens et va donner corps à ces rébellions. Mais voilà, quand vous allez sur le terrain, quand vous discutez avec des combattants de Boko Haram, quand vous avez des études un peu poussées sur les djihadistes en prison, on se rend compte que beaucoup d'entre eux sont rentrés dans les rangs de ces groupes pour venger des parents exécutés par les forces armées, parce qu'ils sentaient que leur communauté, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentaient, que leur communauté était persécutée. Donc désir de vengeance, appât du gain, bref, des logiques
très
prosaïques.
Pour trouver une femme, parfois aussi.
Parfois aussi. Ça a été un des premiers.
Et vous donnez l'exemple du nord du Nigeria.
Du nord du nigérien où effectivement, alors ça c'est un discours qui ne vaut pas seulement pour les groupes terroristes mais aussi pour les salafistes, c'est-à-dire de condamner les traditions africaines du mariage où l'homme doit payer une dot très chère pour, entre guillemets, acheter une femme. Alors effectivement, le discours des salafistes qui répudie cette dot, cette tradition de la dot africaine comme étant finalement anti-islamique ou pré-islamique, elle sert l'intérêt des jeunes qui ont envie de se marier, des jeunes hommes qui ont envie de se marier, entre guillemets, à moindre coût, si vous voulez. Donc il y a pu y avoir aussi des facteurs d'attraction comme ça. Et alors quand les conflits sont engagés avec Boko Haram et les filles de Chibok, dont on a beaucoup parlé, effectivement, là, le fait d'avoir, entre guillemets, des esclaves sexuels, là aussi, ça peut être un facteur d'attraction pour des combattants.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on continuera tout à l'heure à parler de votre livre « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad ?» Je vous propose maintenant de revivre l'actualité internationale de la semaine. Comme un parfum de printemps arabe en Jordanie sous la pression de la rue, le roi Abdallah a congédié le premier ministre détesté, Hani Mulki, qui l'a remplacé mardi par Omar Razaz. Une victoire insuffisante pour les milliers de manifestants vent debout chaque nuit contre la cherté de la vie et le projet de réforme fiscale prôné par le FMI. Projet de réforme fiscale qui prévoit d'augmenter les impôts. Reportage à Amman de Jérôme Boruzewski.
Des milliers de manifestants encerclés par la police, cantonnés sur un terrain vague. Inas les observe alors qu'ils tentent de forcer les barrages de la police.
Le FMI et la Banque mondiale, ils cherchent tout le temps des moyens pour contrôler le monde. Augmenter les impôts et endetter des gens, cela va augmenter le contrôle qu'ils exerceront sur notre pays. Et en fin de compte, on ne pourra plus payer pour rien.
Yasser regrette que le Premier ministre jordanien Hani Mulki met en œuvre les réformes préconisées par le FMI.
Il ne fait qu'obéir aux ordres de l'étranger, il n'a pas de programme, rien du tout. Cela ressemble maintenant au printemps arabe et il ne le voit pas.
Plutôt que d'augmenter les taxes, Khaled, un jeune ingénieur, propose de les baisser.
Si nous avions des lois et des règles satisfaisantes pour les investisseurs, on attirerait des milliards de dollars dans le pays.
Les manifestants dénoncent la perte d'autonomie financière et politique de leur pays. La Jordanie dépend beaucoup de l'aide internationale et notamment de celle des États-Unis.
Et le nouveau Premier ministre jordanien a finalement retiré jeudi soir le projet de réforme fiscale et demandé un délai au FMI. Melina Bouguedir, condamnée à la perpétuité en Irak, assortie d'une peine de 20 ans de prison. Cette Française de 27 ans, mère de 4 enfants, a été reconnue coupable dimanche dernier à Bagdad de terrorisme et d'appartenance à Daesh, qu'elle avait rejoint en 2015 avec son mari, tué depuis à Mossoul. Paris prend acte du jugement et affirme faire confiance à la justice irakienne qui enchaîne les procès. Franck Alexandre.
Capturés par centaines après la prise de Mossoul, les djihadistes étrangers défilent depuis à un rythme effréné devant les tribunaux irakiens. Au cours d'audiences éclairs, ils écopent souvent de lourdes peines. En avril dernier, Jamila Boutoutaou fut la première Française à être condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Pour appartenance au groupe État islamique, Melina Bouguedir vient de connaître un sort identique et une troisième Française doit bientôt comparaître. Dans les geôles irakiennes, 18 ressortissants français seraient actuellement détenus dans l'attente de leur procès. Des procès à la chaîne. Depuis le début de l'année, près de 300 djihadistes étrangers ont été condamnés et parfois à la peine capitale. Ainsi, la Cour pénale centrale de Bagdad a condamné à mort en janvier dernier une ressortissante allemande, une première à l'encontre d'une femme européenne. La rancœur de la population à l'égard des étrangers ayant rejoint le groupe État islamique est telle que les juges irakiens sont souvent plus sévères à leur égard et ne s'encombrent pas de références au droit de la défense pour les condamner lourdement.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, cela vous choque que la France laisse la justice irakienne juger ses ressortissants ?
J'ai pas vraiment de position à ce sujet. Ce qui me frappe, c'est que on insiste beaucoup, y compris médiatiquement, sur les 10% de combattants de Daesh qui étaient étrangers, mais on oublie les 90% qui sont quand même l'essentiel, qui étaient des Irakiens, des Syriens. Donc on est encore sur cette question d'une narration, d'un djihad qui serait global, même si là, indéniablement, il est plus global, à mon avis, qu'en Afrique subsaharienne. Mais quid des 90% des combattants de Daesh? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Là aussi, je crois qu'il faudrait aussi revenir et analyser plus en profondeur, parce que la démobilisation, si vous voulez, et le retour à la paix en Irak, il ne va pas se faire uniquement sur la question du jugement des combattants étrangers. Hein. Ça, c'est un peu un... Je pense que même pour les Irakiens, c'est un peu un épiphénomène, même si c'est toujours pratique pour des Irakiens de dire que finalement, c'était un problème importé de l'extérieur, etc.
Alors, dans votre livre, vous dites aussi que cette thèse du djihad global peut s'expliquer simplement par l'ignorance, la méconnaissance du terrain, ce que vous appelez la géopolitique de salon, qui se ferait à partir du traitement des big data, des données.
Alors ça, c'est mon prochain bouquin, en fait.
Donc on prend un peu d'avance.
Beaucoup plus méthodologique, en réalité. Effectivement, comment on fait pour travailler sur des groupes, en sachant qu'on a beaucoup de difficultés à aller sur le terrain, et que trop souvent, on est obligé de se fier à des informations, des sources secondaires, qu'on a beaucoup de mal à vérifier. On est vraiment dans le brouillard de la guerre, si vous voulez. Et là, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui écrivent sur ces groupes terroristes, djihadistes. C'est aussi une rente hein, pour certains chercheurs, et pourquoi pas moi aussi, mais effectivement qui écrivent sans aller sur le terrain. Et là, on a une analyse à distance, notamment par les vidéos des groupes, uniquement, à travers leur propagande, qui peut donner lieu à des spéculations et des interprétations qui, à mon avis, sont pas du tout fondées tant qu'elles sont pas recoupées sur ce que l'on peut comprendre de ce qui revient du terrain. Donc là, c'est un peu ça que je dis en moquant une certaine géopolitique de salon qui fait de l'analyse uniquement à distance. Là, on peut aussi arriver à des conclusions assez aberrantes, à mon sens.
D'autant qu'Internet n'est pas forcément très utilisé par, justement, ces groupes djihadistes africains.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on applique des paradigmes d'analyse qu'on a sur nos banlieues françaises, où là, il y a du recrutement qui se fait par les réseaux sociaux sur Internet. Maintenant, ça ne fonctionne pas dans des zones comme le Borno, autour de Maïdougouri, ou le nord du Mali. Essayez de faire du stream et de lire une vidéo sur Internet dans le Borno, je vous mets au défi. Et d'ailleurs, les entretiens qu'on a avec ces combattants lorsqu'ils sont en prison montrent qu'il y en a 0% qui ont été recrutés par le biais d'Internet. Donc, je crois que c'est important de le rappeler.
Alors, les drames continuent en Méditerranée. 52 morts dimanche dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Tunisie. Plus à l'est, 9 migrants syriens, dont 7 enfants qui cherchaient à rejoindre l'Europe, ont perdu la vie lorsque leur embarcation s'est renversée au large des côtes turques. Le même jour, Matteo Salvini, désormais ministre dans le nouveau gouvernement populiste italien, s'est rendu pour sa première visite de terrain dans le centre d'accueil de Pozzallo en Sicile. L'occasion pour le leader de la Ligue de rappeler ses priorités en matière d'immigration, Juliette Gerbrand.
La Sicile ne doit plus être le camp de réfugiés de l'Europe, c'est ce qu'a déclaré Matteo Salvini à Catane. Depuis deux jours, le vice-premier ministre multiplie les déclarations sur le sujet. Il a appelé les migrants clandestins à, je cite, « faire leurs valises ». Il entend réduire le budget alloué à l'accueil et augmenter le nombre des expulsions. Quant aux bateaux humanitaires, qualifiés de « passeurs adjoints », plus aucun ne doit accoster en Italie, estime-t-il. Réagissant aux deux naufrages survenus dimanche au large de la Tunisie et de la Turquie, le ministre a déclaré que la solution pour sauver des vies, c'était d'empêcher les migrants de prendre la mer et qu'ils feraient tout pour y parvenir en travaillant directement avec les pays de départ. À Catane, dimanche, quelques dizaines de personnes ont brièvement manifesté leur opposition avec une banderole invitant le ministre à rentrer chez lui. Les protestations, on s'en fout, a-t-il répondu. Nous suivrons notre ligne.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, un gouvernement populiste aux manettes en Italie avec un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, ce n'est une bonne nouvelle ni pour l'Europe ni pour les migrants.
Ni pour les migrants, ni pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une espèce d'équation, à mon avis, très dangereuse qui est en train de se faire, qui met sur le même plan la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'émigration, et la lutte contre la pauvreté à travers l'aide au développement en Afrique. Et c'est pas les mêmes impératifs. Donc si on commence à conditionner l'aide au développement à des impératifs militaires et des impératifs posés par des ministères de l'Intérieur pour refouler les migrants, là, je pense qu'on part sur un avenir peu radieux.
Il a fait cette semaine la tournée des pays européens signataires en 2015 de l'accord sur le nucléaire iranien après l'Allemagne et avant le Royaume-Uni. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait escale en France. Il a été reçu mardi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Chacun a campé sur ses positions. Nicolas Falaise.
Pour Benjamin Netanyahou, l'Iran représente une menace qu'il faut stopper. Le Premier ministre israélien a des mots très durs pour décrire l'accord nucléaire de 2015 qui a permis à Téhéran de bénéficier de la levée des sanctions.
Ça a été un gigantesque distributeur de cash et ils ont pris cet argent pour essayer de conquérir le Moyen-Orient. C'est ce qu'ils ont fait au Yémen, en Syrie, au Liban et maintenant à Gaza. Si le but de l'accord était de rendre l'Iran plus modéré, alors on a vu le résultat opposé. L'accord a donné de l'argent à l'Iran pour essayer de construire un empire.
Benjamin Netanyahou dit qu'il n'est pas venu demander à Emmanuel Macron de sortir de l'accord nucléaire. Le chef du gouvernement israélien estime que la pression économique suffira à dissoudre l'accord de 2015. Cet accord en danger, le président français le défend.
Parce qu'on m'expliquera comment on aide à la stabilité régionale en faisant sortir tout le monde d'un cadre qui au moins a permis à l'Agence internationale d'énergie atomique d'aller surveiller des activités qu'elle ne voyait pas avant. Ou alors j'ai raté quelque chose. Si on pense que l'absence totale de contrôle et d'engagement vaut mieux que le cadre de 2015, je n'ai manifestement pas bien lu cet accord ou pas compris ce qu'on proposait d'autre.
Emmanuel Macron veut sauver un accord qu'il estime imparfait. Le président français propose de le compléter et il met en garde contre une escalade qui pourrait mener à un conflit.
Et le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas sans conséquence sur l'économie française. Après le pétrolier Total, le constructeur automobile PSA a annoncé lundi qu'il allait se retirer du marché iranien pour ne pas s'exposer aux sanctions américaines après l'embargo décrété vis-à-vis de l'Iran par Donald Trump. À Téhéran, Siavosh Ghazi.
Les responsables iraniens n'ont pas encore réagi à la décision du groupe PSA de se retirer du marché iranien, mais il s'agit indéniablement d'un grand choc pour Téhéran. En effet, après l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances en 2015, le groupe PSA est revenu en Iran pour prendre une place de leader sur le marché automobile du pays. Le groupe PSA domine en effet largement le marché iranien avec 450 000 voitures vendues dans le pays l'année dernière, sur un tiers des véhicules construits dans le pays. Surtout, cette décision intervient après celle du groupe pétrolier français Total, qui a laissé entendre qu'il allait abandonner un important contrat de 5 milliards de dollars signé en 2017. La décision de PSA intervient alors que les pays européens tentent d'assurer l'Iran sur leur volonté de sauvegarder l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis il y a presque un mois, ce qui risque de renforcer la position des durs au sein du pouvoir iranien qui affirme que Téhéran ne doit pas faire confiance aux Européens.
Dans l'actualité internationale encore cette semaine, le G7 au Québec avec un Donald Trump seul contre tous et Singapour en plein préparatif de la rencontre historique du 12 juin entre le président américain et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Sept jours en France.
Une affaire embarrassante pour Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée, celui qu'on surnomme le deuxième cerveau du président, Alexis Kohler, est depuis mardi visé par une plainte de l'association Anticor pour corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts. Soupçon totalement infondé, a aussitôt réagi l'Élysée, Valérie Gasse.
Discret et puissant, ce sont les deux qualificatifs qui décrivent le mieux Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Élysée est à 45 ans l'incarnation de l'homme de l'ombre auprès d'Emmanuel Macron avec lequel il a commencé à travailler à Bercy. Alexis Kohler, c'est l'homme en qui Emmanuel Macron a le plus confiance, l'un des rares, si ce n'est le seul, dont le président de la République penserait qu'il est plus intelligent que lui, celui par qui tout doit passer mais qui n'apparaît que très rarement dans les médias. Après des études brillantes qui l'ont mené dans les plus grandes écoles de la République, l'ENA bien sûr, mais aussi Sciences Po et l'ESSEC, Alexis Kohler entame une carrière de haut fonctionnaire avant de devenir directeur de cabinet adjoint de Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie. C'est là qu'Emmanuel Macron le repère. Les deux hommes deviennent très proches et le restent pendant la campagne, même si Alexis Kohler occupe à ce moment-là le poste de directeur financier chez l'armateur MSC, entreprise avec laquelle il a des liens familiaux, ce qui lui vaut aujourd'hui de faire l'objet d'une plainte d'Anticor. La réaction quasi immédiate de l'Élysée pour le défendre après l'annonce de l'ouverture d'une enquête montre à quel point Alexis Kohler est important dans la galaxie Macron.
Une semaine d'actualité.
L'actualité africaine à présent avec ce vent de réforme qui a soufflé mardi sur l'Éthiopie, levée de l'état d'urgence, ouverture au privé et main tendue à l'Érythrée, Alexandra Brangeon.
Des annonces surprises qui représentent un véritable virage. La levée de l'état d'urgence, 2 mois avant la date prévue, une annonce largement perçue comme un geste d'apaisement envers ceux qui manifestent contre le régime depuis plus de 2 ans. Le gouvernement a ensuite annoncé l'ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au secteur privé, une rupture totale avec la politique économique de ses prédécesseurs. Et enfin, la fin du litige frontalier avec l'Érythrée. Addis accepte le tracé de la frontière commune avec son voisin, source de vives tensions militaires entre les deux pays. 3 annonces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, si ce n'est qu'elles représentent un changement majeur de politique. Abiy Ahmed, nommé au poste de Premier ministre pour juguler la contestation, avait promis d'importantes réformes lors de son discours d'investiture en avril dernier. Selon un observateur de la vie politique, le Premier ministre profite de sa popularité pour faire passer rapidement des réformes ambitieuses que la vieille garde du régime n'aurait autrement pas acceptées.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, ce virage en Éthiopie, il se fait par choix ou par nécessité ?
Par nécessité, on avait quand même le sentiment d'un blocage, mais ce qui est heureux dans les décisions qui viennent d'être prises, c'est qu'elles pourraient avoir des conséquences non seulement à l'intérieur de l'Éthiopie, mais aussi dans l'ensemble de la région, notamment à travers un rapprochement avec l'Érythrée, qui pourrait, j'utilise le conditionnel, mais dans un scénario optimiste, avoir une incidence aussi sur la Corne de l'Afrique, notamment la Somalie. L'Érythrée a souvent été accusée de financer, d'armer les Chebabs en Somalie, parce que les Chebabs attaquaient l'Éthiopie. Éthiopie qui avait effectivement occuper une partie du territoire somalien, notamment Mogadiscio, pour chasser les tribunaux islamiques en 2006-2007. Donc un rapprochement Érythrée-Éthiopie pourrait aussi avoir des conséquences heureuses sur l'ensemble de la région et pas seulement à l'intérieur de l'Éthiopie.
Dans l'actualité africaine encore, Jean-Pierre Bemba acquitté hier en appel par la Cour pénale internationale. En première instance, en 2016, l'ancien vice-président congolais avait été condamné à 18 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par sa milice, le MLC, en Centrafrique en 2002-2003. La chambre d'appel de la CPI a relevé de sérieuses erreurs dans le jugement de Jean-Pierre Bemba, notamment la non-prise en compte de circonstances atténuantes. On part maintenant pour le Mali où la tension monte à l'approche de la présidentielle du 29 juillet. 25 personnes ont été blessées samedi dernier quand les forces de l'ordre ont voulu empêcher une marche pacifique de l'opposition, interdite au nom de l'état d'urgence. Depuis, le pouvoir prône l'apaisement. Et c'est dans ce climat qu'est arrivé mardi à Bamako, en provenance de France, un peu moins de la moitié des nouvelles cartes d'électeurs qui vont remplacer la carte NINA, utilisée pour le scrutin de 2013. Le reportage de Coralie Pierret à Bamako.
Sur des palettes à l'aéroport, 3 900 000 cartes d'électeurs neuves attendent d'être envoyées dans les régions. Des documents infalsifiables, explique le ministre de l'administration territoriale, qui succède à la carte NINA.
Qu'est-ce qu'elles ont de plus ? Ces cartes d'électeurs vous donnent votre centre de vote, votre numéro de bureau de vote, et elles sont biométriques. C'est-à-dire qu'on peut vous reconnaître avec votre photo d'identité.
Mais l'ancienne carte NINA pourra encore servir pour voter en cas de force majeure, selon la nouvelle loi électorale adoptée en avril 2018. Qu'est-ce que la force majeure ? Seul le ministre est habilité à la définir sans obligation de concerter les autres partis politiques, indique Malik Touré, président d'honneur de l'URD. Ce principal parti d'opposition a d'ailleurs décliné l'invitation ce mardi. Yelema, un autre mouvement politique, l'un des rares représentés à la cérémonie, pose la question de l'acheminement des cartes.
Nous avons aujourd'hui une grande partie du territoire où nous n'avons pas une administration, où il est impossible de se déplacer, où les gouverneurs ont pris des décisions d'interdiction de se déplacer sur des motos et également sur des véhicules double cabine pick-up.
Selon les autorités, le début de la distribution des cartes d'électeurs est prévu pour le 20 juin.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, reçu lundi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les deux hommes ont fait le point sur les questions sécuritaires et le G5 Sahel, cette force qui regroupe des bataillons des armées maliennes, nigériennes, mauritaniennes, burkinabées et tchadiennes, a déjà démarré ses opérations. Mais la question de son financement n'est pas résolue. Gaël Lalex.
Alors que le G5 Sahel est en train d'achever sa 3e opération, le président Issoufou n'a pas caché son inquiétude. La force dispose de 420 millions d'euros pour sa première année d'activité, mais après, Mamadou Issoufou.
J'ai également fait part de la préoccupation de nos pays par rapport à la pérennité du financement de cette force et de la nécessité de placer la force conjointe sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La France est, je crois, le pays qui a le mieux compris que la sécurité est un bien public mondial et que de la sécurité des pays du Sahel dépendra aussi la sécurité de l'Europe et en particulier la sécurité de la France.
Pour l'heure, le G5 Sahel est financé par des promesses de dons de pays partenaires comme la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou d'institutions comme l'Union européenne. Les promesses sont une chose, maintenant il faut signer les chèques et Emmanuel Macron compte bien tenir la caisse.
Il faut maintenant que l'aide soit véritablement décaissée. C'est ce à quoi nous nous employons s'agissant de l'aide de l'Union européenne qui est désormais une réalité sur le terrain. Les premières primes ont été réglées la semaine dernière. Les équipements en protection individuelle seront livrés dans les prochaines semaines. La France s'est aussi engagée pour s'assurer que les engagements financiers de certains partenaires comme l'Arabie Saoudite soient rapidement traduits en livraison concrète au bénéfice des pays du G5.
Sans mécanisme de l'ONU, le G5 devra compter sur une nouvelle conférence de bailleurs pour financer sa deuxième année d'activité.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Emmanuel Macron, on l'a entendu tout à l'heure, s'est beaucoup investi dans la mise en place du G5 Sahel, cette force conjointe de 5 pays qui a pour objectif de lutter contre l'insécurité dans cette région gigantesque. Ce G5 Sahel, c'est une fausse bonne idée pour vous ?
Je l'aperçois, et je suis pas le seul, comme un moyen aussi d'organiser à terme un désengagement de l'armée française, qui est beaucoup investie dans l'ordre du Mali, mais pas seulement, puisque, rappelez-vous, ça avait démarré avec l'opération Serval en janvier 2013, ça s'est étendu avec l'opération Barkhane en 2014, justement, sur ces 5 pays, et néanmoins, on se rend compte que la réponse militaire dans des États qui sont souvent défaillants, avec des armées pas toujours très opérantes, c'est le moins qu'on puisse dire, pose un vrai problème relativement à la gestion des crises provoquées par des groupes qualifiés de terroristes. On se rend compte, un peu tardivement à mon avis, que la réponse militaire non seulement évidemment ne suffit pas, mais n'est pas forcément la plus appropriée quand on est adossé justement à ces armées africaines qui vont aussi tuer des civils et donc nourrir et légitimer le djihad. Donc à mon avis, le G5 Sahel, c'est aussi une réponse pour passer le bâton, passer le relais. C'est comme ça que je le vois en tout cas, et que d'autres aussi le voient.
Mais pour vous, la France n'aurait pas dû intervenir au Mali en janvier 2013 ?
Ah oui, je l'ai écrit dès janvier 2013, pour pas faire de jaloux dans le Figaro et dans Libération. Moi, je pense que c'était pas la réponse adaptée. Alors, ça veut pas dire qu'il devait pas y avoir de réponse militaire du tout, mais il y avait d'autres solutions qui consistaient, par exemple, à barrer la route de Bamako sans entreprendre la reconquête du nord du Mali. Enfin, je vous passe sur les détails.
Voilà, parce qu'on a dit que c'était pour arrêter la progression des djihadistes sur Bamako, et vous appelez ça le récit officiel.
Voilà, c'est-à-dire qu'on nous a présenter ça comme une nécessité absolue, sinon, puisqu'encore une fois, on a appliqué le paradigme du Sahélistan, de l'Afghanistan, donc on nous disait, bah voilà, vous avez 300 pick-up de Touareg qui vont s'emparer du pouvoir à Bamako, ville qui leur était foncièrement hostile et qui comptait 1 million d'habitants, alors que dans beaucoup de vous, vous en avez 100 000. Il y avait tout un récit d'une déstabilisation générale de la zone qui pouvait quand même être un petit peu, disons, mise en doute. C'est le moins que l'on puisse dire. Rappelez quand même que, juste avant l'engagement français, il y avait une résolution des Nations Unies qui avait été votée, qui prévoyait d'abord de rétablir l'ordre constitutionnel à Bamako, puisqu'à l'époque il y avait eu un coup d'État. C'est ça qui avait été la vraie raison de la montée en puissance des groupes djihadistes au nord. C'est parce que l'armée malienne s'était complètement retirée, s'était complètement effondrée, et puis qu'elle se battait à l'intérieur de Bamako. Donc la résolution des Nations Unies me semblait beaucoup plus raisonnable. On rétablissait d'abord l'ordre constitutionnel avec des troupes africaines, parce que le slogan c'est « les problèmes des Africains doivent être réglés par les Africains eux-mêmes », et c'est un slogan de bon sens à mon avis. Et à l'époque, l'idée était seulement dans un second temps de monter au nord avec une armée malienne reconstituée. Et la France ne devait pas intervenir au sol. Elle devait simplement aider en backup par derrière. Et là, on a complètement révisé
les choses. François Hollande l'a décidé contrairement à l'avis des Maliens.
Contrairement à l'avis des Maliens, il y avait peut-être des Maliens, il a été très favorablement accueilli. Le problème, c'est la gestion et la faisabilité. On est dans une zone absolument immense. Donc, envoyer des militaires, même 4000 militaires, face à des centaines de combattants qui se cachent dans le désert, c'est un petit peu comme utiliser un marteau pour essayer d'écraser une mouche, si vous voulez. Il y a vraiment une question de faisabilité. Puisque la crise, c'est d'abord la crise de l'État malien, qu'il n'y avait pas d'armée malienne digne de ce nom, qu'est-ce qu'on pouvait faire à moins de vouloir se substituer complètement à l'État malien, ce qui n'était évidemment pas envisageable, et c'était pas non plus l'ambition de François Hollande, je veux bien l'imaginer. Donc il y a un vrai problème de faisabilité. À partir du moment où on s'engageait dans une lutte militaire qui revenait effectivement à restaurer la souveraineté d'un État malien défaillant, il fallait penser aussi à une solution politique et également fixer les limites d'un départ. Ces limites n'ont pas été fixées. Donc on peut être encore là dans 20 ans, parce que la situation, ça peine énormément de temps de construire un État, de construire une armée performante. Donc là, je trouve qu'il y a eu quand même des limites dans la façon dont était pensé cet engagement à l'époque en janvier 2013.
Et vous dites que les groupes djihadistes qui sont actifs, hein, de la Somalie au Nigeria, en passant par le Mali, le Niger, ne seraient pas là aujourd'hui si ces États n'étaient pas faibles, corrompus et mal gouvernés.
Tout à fait. C'est-à-dire, je pense que les raisons profondes de l'émergence de ces groupes djihadistes, il y a déjà eu des djihads très anciens en Afrique, hein, mais là, aujourd'hui, notamment depuis la fin de la guerre froide, l'émergence de ces groupes, on doit la comprendre en regardant les conditions politiques et sociales et économiques locales, qui justement renvoient à la question de la gouvernance. Et là, on voit effectivement comment ces crises sont mal gérées. L'islam sert à contester les pouvoirs établis, qui sont à ce moment-là considérés comme impies, corrompus, et la religion, de ce point de vue, sert effectivement à demander aussi une forme de justice sociale. Et les groupes djihadistes insurrectionnels se sont complètement greffés sur ce genre de discours pour monter en puissance, renvoyant bien à l'idée que, fondamentalement en Afrique, le problème du djihad, c'est en fait un problème d'État.
Alors le Tchad est un rouage essentiel du G5 Sahel. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est arrivé jeudi à N'Djamena en provenance de Brazzaville avant de s'envoler hier pour Addis Abeba. À N'Djamena pour RFI, Madjassra Nako.
La Centrafrique, la Libye et Boko Haram sont les sujets qui ont été abordés à Brazzaville et N'Djamena. Sur la Libye, le Tchad soutient les efforts de la France en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Chérif Mamad Zen, ministre tchadien des Affaires étrangères.
Le Tchad appuie les efforts visant à organiser des élections en Libye. Dans le sud libyen, il y a une zone de non-droit et cela constitue certainement une menace sérieuse pour l'ensemble des pays voisins, notamment le Tchad.
Sur Boko Haram, le chef de la diplomatie française salue les efforts de la force multinationale, mais Jean-Yves Le Drian n'apprécie par contre pas l'évolution de la situation en Centrafrique, surtout avec l'arrivée d'une mission militaire russe.
J'ai évoqué cette question avec le ministre Lavrov lorsque je l'ai vu à Saint-Pétersbourg. Nous sommes tout à fait déterminés à ce que les engagements constitutionnels, électoraux et militaires qui est présidé à l'arrivée du président Touadéra puisse être respecté sans l'ingérence d'acteurs étrangers.
Sans l'ingérence d'acteurs étrangers, dit Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Il y a une relation très ancienne entre la France et le Tchad, notamment au plan militaire. Donc je le disais tout à l'heure, pour quelqu'un comme Idriss Déby, qui est au pouvoir par un coup de force d'ailleurs depuis 1990, la lutte antiterroriste, c'est une véritable aubaine pour justifier le prolongement de son régime. C'est quelqu'un qui est au pouvoir quand même depuis 28 ans. Donc lui aussi, il a intérêt à présenter les menaces djihadistes comme étant comme ayant une ampleur globale et pouvant potentiellement menacer la France elle-même. Maintenant, on sait bien sur place que la véritable inquiétude aujourd'hui du régime au pouvoir à N'Djamena, ce sont plutôt les toubous à la frontière de la Libye. Là, il y aura un engagement qui aura aussi visera à répondre à des intérêts de politique intérieure aussi très clairement pour le Tchad. Donc n'oublions pas, mais ça c'est pas spécifique au Tchad, qu'à chaque fois la politique extérieure d'un pays, elle se définit aussi en fonction de ses impératifs intérieurs. Et pour le régime de Idriss Déby, effectivement, l'engagement militaire aux côtés de l'armée française au nord du Mali a permis de justifier, de se réinsérer sur la scène diplomatique internationale, de justifier un surcroît d'aide économique et militaire, de faire payer en quelque sorte une sorte de prix du sang, comme on dit, hein, à Dia, qui fait taire complètement les critiques sur la nature du régime.
Il s'est acheté une virginité, selon
vous. C'est ça, voilà. Il s'est en quelque sorte racheté une virginité.
Alors je vous cite encore, les décideurs à Paris, Londres ou Washington ne sont pas prêts à admettre que leurs interventions ou coopérations militaires peuvent non seulement aggraver la situation sur place, mais aussi se retourner contre eux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Vous savez, on dit parfois au Sahel que dès que vous débarquez un soldat français ou un soldat américain, vous créez deux djihadistes. C'est un problème plus général, je dirais. Il n'est pas spécifique au Sahel, mais qui effectivement comment une occupation militaire peut déboucher sur un ressentiment profond des populations locales qui se sentent dépossédées de leur souveraineté. Alors généralement on voit, et ça a été le cas par exemple de l'armée française au Mali, les 6 premiers mois, elles sont perçues comme des troupes de libération. Maintenant, dans la durée, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc il y a ce passage de la troupe de libération à la troupe d'occupation. Et là, qui plus est, il y a des conflits d'intérêts manifestes, puisque la France était l'ancien colonisateur du Mali, du Tchad, et que donc là, il peut y avoir un ressenti qui peut faire le jeu des groupes djihadistes qui justement conspuent des régimes accusés d'être néocoloniaux, alliés à l'impérialisme occidental et trahissant finalement les valeurs fondamentales des musulmans africains.
On va rester dans l'actualité franco-africaine avec la relaxe mardi du journaliste de France 2, Tristan Walex, poursuivi en diffamation par l'industriel français Vincent Bolloré pour un reportage diffusé en 2016 sur ses activités en Afrique, Clémentine Pavlovski.
Souriant, soulagé, à la sortie du tribunal, le journaliste Tristan Walex se dit satisfait du délibéré.
Évidemment, on est très soulagé. Vraisemblablement, tous nos documents et très nombreux documents et témoignages qu'on a produits ont largement convaincu le tribunal qu'il n'y avait aucun problème.
Sur les 9 passages mis en cause dans ce reportage, 8 ont été jugés non diffamatoires, des extraits notamment consacrés aux conditions de travail dans les palmeraies de la Soka Palm, une société productrice d'huile de palme au Cameroun dont Vincent Bolloré est actionnaire. Un passage a tout de même retenu l'attention du tribunal, celui consacré aux conditions d'attribution de la concession portuaire de Kribi en 2015 au Cameroun. Dans son reportage, Tristan Walex se demande si Vincent Bolloré a pu bénéficier de passe-droit. Un terme un peu vif, reconnaissent les juges, tout en décidant là aussi de relaxer le journaliste pour l'absence d'animosité personnelle et le sérieux de son enquête. Maître Juliette Félix, avocate de la Défense.
Nous espérons que cette décision mettra un terme aux procédures Bayon qui sont menées notamment par le groupe Bolloré. C'est une décision qui salue aussi le travail d'investigation fait par ces journalistes chevronnés et sérieux.
De son côté, l'avocat de Vincent Bolloré, maître Olivier Baratelli, a d'ores et déjà indiqué à nos confrères de l'AFP son intention de faire appel.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, j'en viens à une question difficile, la plus difficile peut-être. Si la réponse militaire n'est pas la bonne, comment gagner la bataille contre les mouvements djihadistes? Vous dites qu'il faut désamorcer les motifs de la protestation, mais c'est une vaste entreprise.
Oui, il convient effectivement d'améliorer la gouvernance des États africains, ça me paraît essentiel, améliorer leur transparence, lutter contre l'impunité des forces armées. Il faut voir que quand vous retracez la genèse de groupes comme les Tchebab, comme Acmi, comme Boko Haram, vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a eu une mauvaise gestion des crises par l'État. Qu'on aurait pu effectivement négocier, qu'on aurait pu utiliser la carotte et le bâton. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout utiliser la force militaire, hein, loin de moi cette idée, mais effectivement, mieux la maîtriser. Là, aujourd'hui, on est quand même dans des situations où on tue des civils, donc ça légitime le djihad, ça le nourrit, on met en œuvre des stratégies de la terre brûlée. Aujourd'hui, la crise humanitaire autour du lac Tchad, elle est très largement, en fait, propulsée par les armées de la coalition antiterroriste.
Et vous dites qui vont que l'armée nigériane a fait plus de victimes que Boko Haram.
Et l'armée nigériane, on a une base de données, nigeriawatch.org, à l'université d'Ibadan, qui le montre très bien. Effectivement, cette stratégie de la terre brûlée, qui consiste à brûler les villages, fermer les lieux de production agricole, interdire la pêche sur certains secteurs du lac Tchad, quand vous fermez les frontières, vous interdisez les flux commerciaux, hein, donc vous surenchérissez les prix des biens de première nécessité. Tout ça a contribué à ces crises humanitaires. Donc effectivement, il faut améliorer la réponse militaire. Si on l'améliore pas, on va prolonger les conflits, et c'est plutôt ce que je vois aujourd'hui. Mais encore une fois, pour améliorer la réponse militaire, il faut améliorer la gouvernance, il faut consolider ces États qui pour l'instant dysfonctionnent et gèrent très mal les crises, où finalement l'islam est utilisé comme un moyen pour contester des pouvoirs considérés comme corrompus et donc impies. Et c'est là que le religieux entre en scène finalement.
Mais est-ce qu'il faut par exemple conditionner l'aide au développement à la bonne gouvernance ?
J'y suis plutôt favorable, même si effectivement le problème qu'on a, c'est que si on commence à sélectionner uniquement les États les moins corrompus, on n'aidera jamais les populations les plus nécessiteuses, qui bien souvent, pas toujours, mais se trouvent aussi justement dans ces zones de non-droit où la gouvernance fonctionne très très mal et où les conflits sont mal gérés. En revanche, je pense qu'il peut y avoir quand même des exigences de redevabilité, hein, comme on dit, sur la façon dont l'aide au développement doit parvenir à ceux qui en ont besoin et non pas nourrir des régimes corrompus qui sont déjà au pouvoir depuis plusieurs décennies. Je crois qu'il y a quand même là une vigilance qui, pour ne pas dire une bienséance, qui s'impose.
On va terminer sur une note plus optimiste avec cette belle expérience en Afrique du Sud. Nelson Mandela aurait eu 100 ans cette année. L'ANC a déclaré que 2018 serait consacré à son héritage et son projet de nation arc-en-ciel. Alors l'orchestre Miadji va partir en tournée à partir de juillet pour célébrer Mandela. Il est composé de jeunes Sud-Africains de tous horizons et de toutes classes sociales. Au programme, plus de 15 concerts à Bruxelles, Vienne ou encore Berlin. Le reportage à Johannesburg de Noé Ochebaudin.
Ce morceau, Rainbow Beats, a été créé spécialement pour l'occasion. Il est censé symboliser la nation arc-en-ciel. Tout comme l'orchestre qui compte 90 musiciens, noirs, métis et blancs, tous sud-africains, tous âgés de 14 à 26 ans. Le bassiste Thembinkosi aussi Mavimbela.
L'arc-en-ciel signifie un grand rassemblement de noirs, de métis, d'indiens et de blancs. Cela nous permet de mieux nous intégrer et de mieux nous comprendre à travers la musique, d'apprécier la musique tous ensemble. Et ça, c'est un beau symbole.
Derrière Miyagi, il y a un homme, le chanteur d'opéra Robert Brooks, et un projet.
Nous avons un dialogue interculturel à travers la musique. Créer une scène où se rencontrent des musiques indigènes, africaines, traditionnelles, avec de la musique classique et du jazz. C'est en fait utiliser tous les ingrédients que nous offre ce pays et former quelque chose de nouveau.
Robert Brooks a créé Miyagi en 2001. Le but, investir sur la jeunesse sud-africaine.
L'orchestre est un mélange entre des jeunes talents que nous avons auditionnés récemment et un noyau très important de jeunes que nous suivons depuis le premier jour.
Une école a même été ouverte dans le township de Soweto en 2011. Elle accueille plus de 100 jeunes de 6 à 18 ans. Boulé Benkosi Nebulani a 14 ans. Elle y joue du violoncelle 3h30 par semaine.
Au lieu de traîner dans le township avec les autres jeunes, de fumer ou de faire autre chose, je suis mes cours de musique, j'apprends, je reste active. Après l'école, je fais mon solfège, mes devoirs et je vais me coucher, c'est ma routine.
Boulé Benkosi veut devenir violoncelliste professionnel comme son professeur Dali Changela. Lui aussi, originaire d'un township.
La musique a fait beaucoup pour moi. Je ne faisais rien dans le township avant de jouer d'un instrument. Ça m'a permis de m'occuper et de devenir créatif.
Dans une Afrique du Sud post-apartheid, encore minée par les divisions, la musique semble être l'un des seuls secteurs capables d'établir des ponts entre les cultures et de respecter le souhait de Nelson Mandela.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, cet orchestre, c'est un bel exemple de la nation arc-en-ciel dont rêvait Mandela.
Oui, tout à fait. Puis ça me rappelle, moi j'avais été observateur des Nations Unies au moment de l'élection de Nelson Mandela en 1994. Et du coup, on avait eu le privilège d'être invité à son intronisation à Union Building, à Pretoria. Et là, il y a eu toute une série de concerts qui mêlaient des ballets classiques, des chants zoulous, plus ou moins martiaux. C'était extrêmement réjouissant, vous voyez, très syncrétique. Et ça me rappelle un peu cette image dont j'ai gardé un excellent souvenir.
Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'avoir été notre invité. Votre livre « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad » vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci à Vanessa Rovensky qui a réalisé cette émission et à vous qui nous écoutez. Demain, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic pour le magazine Idée. Ce sera à 17h10, heure de Paris. Bon week-end. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.